Atlantique Mobile de Banque Atlantique. L'appli mobile totalement gratuite vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient, appelez-nous, exprimez-vous. Ce matin, nous reparlons de l'insécurité routière avec en toile de fond le lourd bilan sur les routes sénégalaises. En une semaine, plus de 60 personnes ont été tuées dans deux collisions impliquant des bus, des drames qui suscitent sur place la colère, colère contre les autorités, contre les transporteurs, contre l'incivilité des conducteurs. Le gouvernement a certes annoncé une batterie de mesures pour réduire le nombre d'accidents, des décisions qui ne font pas l'unanimité. D'ailleurs, depuis hier, plusieurs syndicats de transporteurs sont en grève. En tout cas, ces deux accidents nous rappellent que l'Afrique affiche l'un des pires taux de mortalité routière au monde. Alors, comment améliorer la sécurité routière? Quelles dispositions, quelles mesures sont prises dans vos pays respectifs? Appelez-nous, vos témoignages évidemment nous intéressent. Et vous nous rejoignez au 33 9 693 693 70. Vous êtes nombreux, comme la semaine dernière d'ailleurs, à souhaiter témoigner. On croule sous les réactions WhatsApp et Facebook, donc j'en lirai quelques-unes, bien évidemment, comme tous les matins. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction. On va commencer avec Hassan. Bonjour.
Bonjour, Juan.
Et merci de nous appeler de Dakar, où vous nous écoutez sur les 92 FM. Hassan, vous avez des questions sur la COP 28, qui se tiendra à la fin de l'année aux Émirats Arabes Unis.
Oui, bien sûr. Le sultan Al-Jaber, PDG du compagnie pétrolière, a été désigné comme président de la COP28 à Dubaï pour lutter contre le réchauffement climatique. Juan, comment expliquer ce choix controversé ?
Choix controversé, choix critiqué effectivement par les défenseurs de l'environnement. Bonjour Simon Rosé.
Bonjour Juan, bonjour Hassan.
Journaliste au service sciences de RFI, c'est vrai que ça paraît surprenant que le patron d'une multinationale pétrolière soit désigné président de la COP28.
Alors déjà, il y a plusieurs facteurs. Cette COP28, vous l'avez dit, elle se tient aux Émirats Arabes Unis, puisque c'est en fait une organisation tournante en fonction des continents. C'était l'Afrique à Sharm el-Sheikh en novembre dernier. Cette fois-ci, c'est autour de la région, la grande région Asie-Pacifique, dont fait partie le Moyen-Orient. D'où l'organisation confiée aux Émirats Arabes Unis. Et c'est vrai que les Émirats ont décidé, plutôt que de donner la présidence de la COP à leur ministre de l'Environnement, ils l'ont donné à leur ministre de l'Énergie, de l'Industrie, qui a également donc cette casquette de patron de l'ADNOC, l'Abu Dhabi National Oil Company. Troisième producteur mondial de pétrole. Après, l'homme n'est pas que ça. Il est également, c'est Monsieur Climat aux Émirats Arabes Unis. C'est lui qui a mené les délégations émiraties à Glasgow lors de la COP 26, à Sharm el-Sheikh donc lors de la COP 27. Les Émirats avaient envoyé un peu plus de 1000 délégués. Mm-hmm. Donc il est rompu un peu à toutes ces joutes onusiennes et à ces négociations onusiennes.
Ce qui surprend Simon Rosé, c'est qu'il a un pied dans le pétrole et un autre dans les énergies renouvelables.
C'est ça, oui, puisqu'en parallèle, il est également le patron d'une entreprise qu'il a fondé, qui s'appelle Masdar, qui est une entreprise d'énergie renouvelable. Et c'est un peu toute l'ambivalence de l'homme et des Émirats qui comptent énormément sur le pétrole, mais en même temps, et c'est vrai, font pas mal de choses en termes de renouvelables, de déploiement de solaire. Ils ont des projets assez massifs dans ce sens. Ils veulent décarboner leur secteur énergétique avec la construction également de plusieurs réacteurs nucléaires. Mais le pétrole reste quand même le nerf de la guerre aux Émirats. Et il en joue un peu, Sultan Al-Jaber, dans ses discours, puisque lui, il tient une ligne qu'on pourrait qualifier de cynique ou de réaliste, c'est selon. Mais il défend une transition énergétique réaliste. Il part du constat que les gens continueront d'utiliser des fossiles. C'est comme ça, actons. Et essayons de faire les choses le moins salement, le plus propre possible. C'est selon les points de vue. Donc c'est un peu le discours qu'il tient, qui évidemment, vous le rappeliez, ne passe pas du tout auprès des ONG, qui dénoncent... une prise en otage des négociations de la part du secteur des fossiles, d'autant plus que ça intervient après la COP de Sharm el-Sheikh où il y avait énormément, plus de 1000 lobbyistes du fossile, du secteur fossile qui étaient présents en Égypte pour cette COP. Ces ONG qui réclament à minima qu'il démissionne de son poste à la tête de l'ADNOC, donc de l'Abu Dhabi National Oil Company, ça n'a pas l'air d'en prendre la route, ça n'en prendra très certainement pas la route, donc à voir effectivement comment ça se passera à Dubaï en novembre.
Et sait-on, Simon Rosé, si l'ONU a réagi? Parce que c'est quand même une conférence organisée par les Nations Unies.
Pas à ma connaissance, je ne vois pas pourquoi en fait ils se permettraient d'intervenir dans un choix souverain d'un pays organisateur comme ça. Non, pas à ma connaissance.
A-t-on répondu à vos questions, Hassan?
Oui, merci Simon Rosé.
Et bonne journée à tous les deux, Simon à Paris et Hassan à Dakar. 33 9 693 693 70. Bonjour David.
Bonjour.
Merci de nous appeler du Togo.
Ouais.
Vous avez des questions sur l'Iran, soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
Ok. Les députés européens débattent de l'inscription des gardiens de la révolution sur la liste des entités terroristes. Quelles peuvent être les conséquences pour les autorités iraniennes d'une telle décision ?
Ah, c'est une bonne question. C'est vendredi que théoriquement le Parlement européen doit voter une résolution pour classer les gardiens de la révolution islamique parmi les organisations terroristes. Bonjour Nasser Etemadi.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au service en langue persane de RFI. On voit que les députés européens veulent accentuer la pression sur le régime iranien et ce, 4 mois après la mort de Mahsa Amini et le début de la contestation populaire qui est violemment réprimée. Quelles seraient les conséquences pour Téhéran si les gardiens de la révolution islamique se retrouvent sur la liste européenne des organisations terroristes ?
Eh bien, Juan, elles seront inédites et énormes. Elles reviendraient à isoler davantage le gouvernement iranien en renforçant le bloc transatlantique face au gouvernement islamique. Car bien avant la France et l'Europe, les États-Unis, à l'époque de Donald Trump, en 2019, ont mis les gardiens de la révolution sur la liste noire des groupes terroristes. Par conséquent, le poids des sanctions contre le régime iranien sera beaucoup plus écrasant. Car il faut bien savoir si, je dis bien si, l'Union européenne, y compris la France, déclare terroristes les gardiens de la révolution, cela impliquerait nécessairement un changement qualitatif de la position européenne vis-à-vis de l'ensemble de gouvernements iraniens, et pas que les gardiens de la révolution.
Oui.
Disons pour aller vite, à terme, l'Europe changera totalement le registre et la perspective vis-à-vis du régime iranien. Du changement du comportement du régime iranien, l'Europe passera au changement du régime en Iran.
Oui. Y a déjà des membres des gardiens de la révolution qui font l'objet de sanctions individuelles de la part de l'Union européenne. Visiblement, ce type de pression ne semble pas impressionner cette organisation.
Et non, parce que justement, les gardiens de la révolution, en tant qu'organisation militaire du régime iranien, n'étaient pas placés encore sur la liste noire des organisations de terroristes. Il faut savoir que les gardiens de la révolution, à eux-mêmes, contrôlent plus de 60%, 70% de l'économie iranienne, sans compter le guide suprême, qui est son allié principal dans l'establishment. Or, mettre les gardiens de la révolution sur la liste noire des organisations terroristes reviendrait à rendre impossible tout échange commercial, financier, bancaire avec le régime de Téhéran.
Vous restez avec nous, Nasser Etemadi. David a une autre question à vous poser.
Oui. Pourquoi initialement la France refusait que les gardiens figurent dans cette liste ?
Ah, c'est vrai, on a senti une certaine réticence de la part de la France, contrairement à d'autres pays européens, et je citerai notamment l'Allemagne. Quelle explication avez-vous, Nasser Etemadi ?
Juan, en fait, cette réticence n'était pas et n'est pas propre au sein de l'Europe à la France. Elle était partagée au sein de l'Union européenne par d'autres pays, compte tenu justement de poids importants des gardiens de la révolution, aussi bien dans l'économie que le politique en Iran, et aussi bien également dans la région où les gardiens de la révolution exercent une influence déstabilisatrice depuis la Syrie et le Liban jusqu'à l'Irak, en passant par Yémen, notamment à travers ces groupes paramilitaires qui sont soumis à l'ordre de Téhéran. Or, le régime iranien est bien conscient de conséquences énormes d'une telle mesure, qui n'est toujours pas prise, il faut bien le préciser, d'où la nervosité et l'inquiétude du régime de Téhéran, qui vient d'ailleurs exécuter un Britannique d'origine iranienne. Il faut savoir à l'heure actuelle que 7 citoyens français et plusieurs dizaines de citoyens européens sont pris en otage en Iran sous l'accusation d'espionnage, la même accusation qui a conduit à l'exécution d'Ali Reza Akhavari, le citoyen irano-britannique, il y a quelques jours.
Oui, qui a été donc exécuté il y a quelques jours. Donc on comprend effectivement la réticence peut-être de certains pays, notamment de la France, le fait de savoir que sur place, le régime détient des ressortissants européens. Ces pays n'ont pas forcément envie de rompre avec Téhéran. David, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, clairement, merci.
Clairement, tant mieux. Alors, on est là pour ça. Bonne journée à Lomé et un grand merci à Nasser Etemadi, journaliste au service en langue persane de RFI. 33 9 693 693 70. Appelez-nous, on répond à toutes vos questions concernant l'actualité. Kassoum nous écoute à Fourou. Fourou, c'est à quelques kilomètres de la frontière ivoirienne. Il est au Mali. Kassoum nous écoute grâce à un VPN. Bonjour, soyez le bienvenu.
Bonjour Wana, bonjour aux auditeurs de la RFI.
Et merci de votre confiance. Quelles sont vos questions ? Vous avez des questions concernant le projet du gouvernement français de créer une nouvelle carte de séjour pour les professionnels de santé ?
Oui Wana, le gouvernement français va présenter son projet de loi d'immigration qui prévoit une carte de séjour spéciale pour les médecins étrangers. Une tribune des médecins s'inquiète d'une possible fuite des médecins africains vers la France. Alors, qu'est-ce qui justifie cette crainte ?
Effectivement, bonne question. Pour vous répondre, nous avons contacté l'un des quatre signataires de cette tribune publiée il y a une dizaine de jours dans le JDD, le journal du dimanche. Tribune intitulée « Ne privons pas l'Afrique de ses médecins ». Bonjour Jean-Paul Vernant.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur émérite d'hématologie, membre du comité des sages de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ce nouveau titre de séjour, s'il est adopté, s'appellera « Talents, professions médicales et de pharmacie ». Seront concernés les étrangers extra-européens. Que dénoncez-vous exactement, Jean-Paul Vernant ?
Bien, écoutez, actuellement, il faut se féliciter et remercier un certain nombre de médecins étrangers qui pallient les problèmes, les manques actuels de la santé en France. Vous savez que nous manquons énormément de médecins, que nous avons des déserts médicaux. Et donc, il y a, si vous me posiez la question, combien il y a de médecins étrangers travaillant en France avec un diplôme étranger ce que je peux vous dire, c'est qu'en 2021, il y en avait à peu près 22 600 médecins avec des diplômes étrangers. 45% étaient en fait des médecins avec des diplômes européens, et là, c'était pas de problème, et puis 55% avec des diplômes extra-européens, la majorité venant du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire qu'il y avait à peu près 12 400, 12 500 médecins maghrébins ou d'Afrique subsaharienne en France. Et il est évident qu'ils travaillent dans des conditions extrêmement difficiles, c'est-à-dire qu'ils ont des statuts précaires, ils sont attachés associés, ils sont assistants associés, ils ont une moindre rémunération que leurs collègues européens, donc leur situation est difficile. Et je me réjouis qu'ils puissent travailler dans des conditions moins précaires, avec des salaires identiques à celles de leurs collègues européens, c'est parfait.
Oui. Mais qu'est-ce qui vous dérange concrètement dans le projet du gouvernement français ?
Ce qui nous dérange actuellement, à côté de ça, c'est qu'on fait un appel d'air, c'est-à-dire qu'on va demander à un certain nombre de médecins du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne de venir travailler en France pour régler le problème de nos déserts médicaux. Hein, c'est-à-dire qu'il y a en France, du fait des gouvernements successifs depuis 1971 avec le numerus clausus, il y a une limitation du nombre d'étudiants en médecine de plus en plus drastique et nous manquons de médecins. Il y a des déserts médicaux en France, donc on va demander aux Africains de venir régler le problème. Sauf qu'on va créer à la place des déserts médicaux en Afrique. C'est-à-dire que tous ces médecins qui ont été formés en Afrique, qui sont des gens tout à fait compétents et qui travaillent actuellement dans le Maghreb ou en Afrique subsaharienne, vont venir travailler en France et il n'y aura plus de médecins dans ces lieux.
Et vous dites dans cette tribune, Jean-Paul Vernant, je vous cite, on ne limitera pas l'immigration illégale en continuant à priver les pays d'origine de leurs ressources naturelles, technologiques et humaines.
Mais bien évidemment, dans la mesure, excusez-moi, mais si dans un pays où il n'y a plus de médecins parce qu'ils ont migré en France, les gens sont malades, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, ils vont venir effectivement se faire soigner en France. C'est tout à fait logique. On ne peut pas faire autrement que ça. Voilà, donc on va avoir plus de l'immigration habituelle, on va avoir une immigration liée à la santé illégale et qui me semble tout à fait illégale ou plus ou moins légale, mais qui me semble la conséquence logique de cette proposition de loi.
Et vous demandez au gouvernement de retirer son projet de loi. En tout cas, pas le projet de loi dans son intégralité, bien évidemment, mais cette proposition de titre de séjour spécifique pour attirer les personnels médicaux.
Absolument, absolument. Nous demandons ça.
Avez-vous, peut-être suite à cette tribune, avez-vous eu une quelconque réaction de la part du gouvernement français?
Non, pas encore. J'espère que nous allons avoir une réaction, mais il y a quelque chose de choquant et... parler de manière un peu schématique, disons que c'est une attitude néocoloniale, là, hein, c'est-à-dire qu'après avoir piqué le sous-sol, piqué le sol, on pique les esprits et les talents de ce pays.
Tribune à retrouver évidemment sur Internet, publiée dans le journal du dimanche il y a une dizaine de jours. Ne privons pas l'Afrique de ses médecins. Vous êtes plusieurs à l'avoir signé, notamment Ronnie Broman, ancien président de Médecins Sans Frontières, ou encore Xavier Emmanueli, ancien secrétaire d'État. Kassoum, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, bien sûr. Ouais.
Merci infiniment de nous écouter à Fourou, donc au Mali, à quelques kilomètres de la frontière ivoirienne. Merci de votre fidélité et Jean-Paul Vernant, merci d'avoir pris quelques minutes pour nous expliquer l'intérêt, l'objectif justement de cette tribune. Bonjour Hervé. Hervé, êtes-vous là?
Bonjour. Ouais.
Bonjour, soyez le bienvenu.
À vous.
Merci.
Bonjour, merci à vous et à tous les Tchadiens qui nous écoutent en ce moment.
Et ils sont nombreux, les Tchadiens, à nous écouter, puisqu'à chaque fois que nous parlons du Tchad, nous croulons sous les réactions. Hervé, vous avez des questions concernant justement votre pays, près de 3 mois après la répression des manifestations du 20 octobre.
Effectivement, Juan. Parmi les 27 membres des transformateurs déclarés morts par les autorités, 22 ont été retrouvés à la prison de Klessin. Ces militants avaient été arrêtés le 20 octobre dernier. Alors, j'aimerais savoir, Juan, comment expliquer qu'ils aient disparu des radars pendant près de 3 mois?
Allez, bonne question que vous posez. Réponse de Madjas Ranako, correspondant de RFI à N'Djamena. Bonjour, Madjasra.
Bonjour, Juan. Bonjour, Hervé. Bonjour à tous.
On a donc des militants du Parti Les Transformateurs qui ont été arrêtés le 20 octobre, qui ont été déclarés comme morts par certaines sources et qui finalement sont en vie. Comment expliquer ce retournement de situation?
En fait, c'est la question que tout le monde se pose, hein, et même le représentant de la FIDH en Afrique centrale, M. Dobiyan Asingar, de qui, hein, l'information est partie, parce qu'il a reçu une liste des membres présumés ou des membres des transformateurs qui se sont retrouvés donc tout d'un coup dans cette prison, et lui, il a pris le soin de diffuser cette liste en se demandant mais comment se fait-il que 3 mois après, ils aient réapparu aussi soudainement. Et après la diffusion donc de cette information, le parti Les Transformateurs a réagi, hein, le lendemain pour dire qu'en fait, il ne s'agit pas tout à fait des 27 membres qui auraient été arrêtés et annoncés comme exécutés, mais une partie de ceux-là. Donc, il reste encore beaucoup de questions, et notamment, où sont le reste des 27 présumés qui ont été arrêtés le 21 octobre au siège des transformateurs? Et ce sont des questions qui, en fait, restent, et tout le monde regarde en direction du procureur de la République qui est en charge, en fait, de tout le dossier.
De tout ce dossier. Et puis il y a aussi cette enquête internationale pour établir la vérité sur ce qui s'est réellement passé et pour connaître le vrai bilan de cette répression. Merci, Madjasra.